France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Marie-Nicole Lemieux, je suis née au Québec, exactement à Dolbeau, et je suis ce qu'on dirait une artiste lyrique, et puis plus simplement, je suis une chanteuse d'opéra.
En 2000, il y a une forme de bascule qui se fait, Marie-Nicole Lemieux. Cette bascule, elle vient de ce que vous allez passer plusieurs concours. Et puis, il y a un dernier concours, qui est le concours Reine-Élisabeth. Et là, vous prenez, je crois, l'avion pour la première fois.
Oui.
Et vous voilà à passer le concours Reine-Élisabeth, sachant qu'en plus, la vie va plutôt bien, parce que vos précédents concours vous ont donné des engagements. Donc, vous y allez en toute liberté,
exactement,
si je puis dire.
Premièrement, l'année avant le Reine-Élisabeth, j'avais gagné un concours qui s'appelle les 100 associés, qui donnait une bourse de 6 000 $. C'est énorme pour l'époque. Donc ça m'avait permis de préparer justement toute cette année de concours-là. On avait travaillé très fort. Ça a commencé avec le concours de musique du Royaume. Oh, je gagne. Ben voyons donc. Ensuite, concours de Trois-Rivières. Oh, je le gagne. Ben voyons donc. Et là, il y a le concours de musique du Canada. Donc, à l'époque, il était seulement national. Ça, c'est le 2 mai. C'est la finale. Et là, ouf, je le gagne. Ben voyons donc. Et ça, ça me garantissait un enregistrement d'un disque et une tournée au Canada de concert. Donc, j'avais une année bien remplie. C'était super. Donc, le 2 mai, je gagnais. Le lendemain, le 3 mai, je prenais pour la première fois l'avion pour Bruxelles. On a passé par Amsterdam. C'était avec KLM. Et puis, j'allais au Reine-Élisabeth. Et j'étais, mais complètement inconnue. J'allais là vraiment pour me dire, bon, comment ça va se passer? En fait, on allait là, on s'était dit, on va voir quel niveau j'ai par rapport aux autres chanteurs. C'est vrai, parce qu'on le sait pas, j'étais jamais sortie du Québec. J'étais logée à Linkebeek, en banlieue de Bruxelles. J'étais même pas en Bruxelles, parce que ma logeuse avec qui j'ai toujours des contacts, hein, Madame Alexandre, Jacqueline Alexandre, chère mamie. Elle, en plus, d'habitude, elle prend toujours des concurrents inconnus parce que il reste moins longtemps. Elle a une vie bien active, elle travaille, donc elle a toujours des concurrents, mais elle dit tout le temps, bon, donnez-moi les moins connus! Puis restez là 2 mois! Et je ris toujours, après coup, je me dis, mamie, vous étiez prisonnière. Là, elle rigole, mais c'est un amour. Je suis devenue, avec ses enfants, on s'est encore vus il y a pas longtemps, on a fait un dîner, on était tous ensemble, c'était tellement... C'est beau, ça, c'est des belles rencontres. Et donc, j'arrive au bureau du concours, ma logeuse vient à ma porte au concours Reine-Élisabeth, tout ça, je rencontre Michel Etil Van Ness, et là, il me dit, oui, vous avez été jumelés, les chanteurs étaient jumelés par hasard avec des pianistes. Il dit, vous avez été jumelés avec Daniel Blumenthal. Ah oui? Et là, ma logeuse lève les yeux au ciel. Oh, Daniel Blumenthal, m'y a dit. Mais c'est le meilleur. Ah oui? Ah non, il est fantastique. C'est le meilleur. Vous êtes vraiment chanceuse. Ah oui? Donc, je savais même pas, mais la vie était bien faite. Et donc, il dit, attend votre coup de fil pour répéter. D'accord. Alors, je l'appelle. Oui, allô, c'est Marie-Nicole Lemieux. Oui, bonjour, oui. J'appelle parce qu'il faut prendre rendez-vous pour répéter. Mais bien sûr. Alors quand? Mais maintenant? Oui, maintenant. Mais oui, j'ai du temps. Donc là, tout d'un coup, je me dépêche, je m'en vais là, chez lui, dans sa belle grande maison bruxelloise, qui est devenue maintenant ma deuxième famille. C'est fou, hein, quand des rencontres comme ça qu'on fait, que je rentre là, c'est sa maison magnifique, dans ses deux grands Steinway, et puis je me mets à chanter. Et là, ma logeuse aussi, elle me l'a pas dit sur le coup, mais elle m'a entendu chanter, puis elle a fait « quand même, c'est pas mal ». Et moi, je chante, tu sais. Puis là, je me rappellerai toujours dans le siège de velours rouge. Daniel me regardait avec un sourire. Il disait, c'est bien. C'est bien. L'épreuve la plus difficile, ça a été l'épreuve hors public. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je sais que c'est plus comme ça. C'était à huis clos. Il y avait 8 juges, je crois, dont Grace Bunbury, Joan Sutherland, Martina Arroyo. Tu sais, des petits noms comme ça, là. Je leur voyais le profil de tête, là, tu sais. Là, j'avais 10 minutes exactement pour prouver que j'avais le niveau du concours. Et j'avais choisi de chanter Che faro senza io ridice, Gluck, encore des choses que je porte depuis très longtemps, et l'invitation au voyage de Duparc. Et je termine, je dis bon non, et je m'en vais. Et finalement, je passe. Je suis acceptée au concours. Donc, première épreuve publique, c'était un après-midi au Conservatoire de musique de Bruxelles, dans la vieille salle maintenant qui est abandonnée, qui était tellement pleine de poussière et d'amour et de musique. J'adorais cette salle-là, c'est une salle. Et je me rappelle, j'avais un tailleur rouge framboise. Et là, les juges vous disaient ce qu'ils voulaient qu'on interprète. Ils venaient nous le dire 30 minutes avant de chanter. C'était ça la difficulté. Donc, ils me demandent une pièce de Barber. Ils m'ont demandé « Amour vient aider ma faiblesse ». Ils m'ont demandé Auf der Donau, je crois, un Schubert, et ils m'ont redemandé Duparc. Quand j'avais compté ça, mon prof, elle a dit, c'est des jouisseurs. Et ce que je savais pas, c'est que dans toute la compétition, nous étions seulement 2 contralto, donc on passait toujours un après l'autre. Et les vilains juges, ils nous avaient demandé le même air d'opéra. Amour vient aider ma faiblesse. C'est-tu pas gentil, ça? Mais on le savait pas, tu sais. C'est après, à un moment donné, j'arrive, j'attendais pour passer, et je l'entends chanter « Amour vient aider ma faiblesse ». Je me suis dit « Bon... » En tout cas. Mais tout a été balayé, savez-vous pourquoi? Parce que ce concours-là, c'est ça qui est beau, c'est que c'est devant les gens. C'est devant le public. Donc, j'étais... À chaque fois, j'y allais, puis je me disais « Je suis en récital. Vous avez pas le choix. Donc, je chante. » Et je me rappelle, donc, je chante mes affaires, je chante l'invitation au voyage, tout ça. Et là, je finis ma dernière note. Et là, ça se met à crier des bravos dans la salle. Non, mais quand je sais pas, c'était la première fois que je chantais devant un public européen. Et ça se met à crier bravo et tout ça. Et ça n'a jamais arrêté. Ça a été une sacrée expérience parce que du jour au lendemain, je passe en demi-finale et puis je passe en finale. Et puis le pire là-dedans, c'est que je le gagne. C'était là... tellement là, effarant. J'avais tellement peur. Quand ils ont dit mon nom, là, j'étais découragée. Je me rappellerai toujours, ils ont dit, premier prix, prix de la reine Fiamma, et the prize, Marie-Nicole Lemieux. Ils l'ont vraiment dit comme ça. Puis là, j'entends, j'entends les cris, et là, je sors, et les gens criaient. C'était incroyable. C'était vraiment là, comme une rockstar. tout ce que je me disais, c'était comme une espèce de mantra. Là. Je parle comme ça que le micro, vous allez l'entendre. Là. Je fais comme un mantra. Là, je me disais, je ne veux pas être un feu de paille. Je veux pas être un feu de paille. J'arrêtais pas de me dire ça.
Et pourquoi Marie-Nicole Lemieux? Parce que ceux qui avaient gagné le concours Reine-Élisabeth, souvent, il se passait pas grand-chose après.
Et oui, connaissez-vous Agavinska? Connaissez-vous Thierry Félix qui fait une carrière un peu en France? Connaissez-vous Steven Salters? Les connaissez-vous? Agavinska, la première chanteuse, elle avait carrément perdu la voix, là. Ça, là, c'est ce qu'un chanteur craint le plus au monde, c'est de perdre sa voix, de briser sa voix. Et moi, j'étais effarée. Je me suis dit, ça y est, je suis la prochaine. Puis, c'est tellement exigeant, ce concours-là, avec raison qu'on doit avoir peur, parce que c'est énorme. Donc, toutes les retombées que j'avais eues au concours de musique du Canada, Dieu merci, Joseph Rouleau, André Bourbeau, les directeurs du concours, ils ont réagi avec la manière la plus chevaleresque et la plus digne qu'ils ont fait. Ils étaient contents pour moi. Ils auraient pu dire, non, ça va pas. Ils ont été fantastiques. Ils ont tout reporté à l'année suivante. Toute ma tournée, ils m'ont entendu. Mais en même temps, eux, ils ont fait une promotion parce qu'ils étaient tellement contents. Ils ont dit, regardez, notre gagnante a gagné le plus grand concours au monde. J'ai été chanceuse d'avoir des gens comme ça autour de moi. Vraiment, vraiment. Et ça a vraiment démarré ma carrière. Ist doch so weit von hier, als müsste in den Garten von Rosen weiß und rot meine Liebste auf mich warten und ist doch so lange tot und ist doch lange tot und ist doch lange tot.
Les grands entretiens de Marie-Nicole Lemieux, France Musique.
Le contralto, Marie-Nicole Lemieux, c'est un certain registre. Peut-être que son répertoire est assez ramassé, mais du coup, il permet de dépasser toutes ses frontières. D'une certaine façon, il autorise la plus grande des libertés.
Exactement.
Et ça, vous allez en jouir de cette liberté.
Oui, mais au départ, je ne savais pas à quel point j'allais pouvoir en jouir, parce qu'au départ, je me considère comme une récitaliste.
C'est ça, l'opéra, il va venir plus tard.
Exactement.
Bien plus tard. Au départ, c'est vraiment, c'est quoi? C'est une tournée Schumann.
Schumann, les Frauen lieben und leben, des extraits des Nuits d'été, de la mélodie. Vraiment, c'était vraiment que ça. Et j'avais d'ailleurs gagné le prix du Lieder au Reine-Élisabeth. Donc, parce que les grands rôles de contralto. On parle de Mistress Quickly de Verdi. On parle de Ulrika de Verdi. On parle aussi des grands rôles rossiniens. On est d'accord qu'on chante pas Ulrika à 24 ans. J'avais 24 ans. Donc, éventuellement, Dalila, on ne chante pas Dalila à 24 ans. Tous les grands rôles que je rêvais de faire ou que je pensais même pas de faire, c'était de toute façon... vous imaginez, il y a quelqu'un qui m'a offert à 24 ans, à son temps du Reine-Élisabeth, il voulait que je fasse Amneris. Maintenant, même Amneris, je le refuse encore, c'était pas dans ma voix. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est tout ça le danger de gagner ces concours-là. C'est de dire oui trop tôt. Et ça, c'est ce qui m'a protégée d'une certaine manière. Ma voix était limitée, donc je peux pas dire oui à tout. Et je pouvais pas faire Quickly ou Ulrika à cet âge-là. Donc, je disais non. Et donc, jamais m'était venue l'idée de faire du baroque. C'est ça qui est fou. Parce que quand j'avais fait l'épreuve au Reine-Élisabeth, on avait une épreuve baroque. Et l'orchestre, c'était l'Académie of Ancient Music. Et ils avaient été très snob avec moi, je vais le dire, là. Ils m'avaient imposé des tempi, ils avaient jugé ce que je faisais. Vraiment, c'était la première fois de ma vie que je chantais en 415. Et quand j'écoute les épreuves, c'était vraiment bien ce que je faisais, c'était très musical, mais ils avaient décidé que j'étais pas une chanteuse assez baroque pour eux. Peut-être que D'ailleurs, j'ai chanté avec le chef l'an passé et je lui ai remis sur le nez. J'ai dit, vous m'aviez snobé, vous aviez pas été gentil. Vous aviez dit que j'étais pas une chanteuse baroque. Et j'ai dit ça, moi. Il dit, oui. Il m'avait vraiment, je me rappelle encore de la flûtiste, elle me regardait avec des yeux, le mauvais. Oh! Mais il y avait un public, donc j'avais dit, je vous oublie, vous, moi je chante pour le public. C'était joli, j'avais chanté un air de Bach, c'était bien, mais c'est ça, c'était déroutant la première fois qu'on chante à 415. Et donc, moi après ça, c'était officiel, je ne suis pas une chanteuse baroque. La fiera Donc j'attendais, je faisais mes récitals, je faisais ma tournée des refrains des bons clips, j'ai chanté plein de fois, j'ai fait le disque, on a fait les requêtes leader, on a fait les nuits d'été avec piano, on a fait, voilà, c'était ça. Et à un moment donné, ça commence avec Luc Beau Séjour, claveciniste québécois, magnifique musicien, qui m'appelle, qui me dit « J'aimerais ça faire un disque avec toi. » « Ah oui? De quoi? » « Ben, du Handel. » Et là, je me rappelle, j'ai dit « Ben non, je suis pas une chanteuse baroque. » Il dit « Non. » Il dit « Moi, je trouve que tu vas être très bonne. » Il était très positif. Et donc, j'ai fait ce disque-là, des cantates de Handel pour contralto. Puis ma foi, il est beau. Quand tu écoutes ça, là, quoi, c'était un bébé. C'est pas si mal. Et donc, c'est par eux qu'est venue ma confiance. C'est par aussi T'as fait le musique qui m'a appelé, qui m'a dit « On veut faire un disque avec vous, on peut faire le Stabat Mater de Vivaldi avec toi. » Mais je suis pas une chanteuse baroque. « Non, on aime ça ce que tu fais. » C'est drôle, hein? Et le premier opéra que j'ai fait dans toute ma vie, c'était Cornelia dans Jules César à Toronto. J'avais fait une audition pour Richard Bradshaw aussi à la Canadian Opera Company. Et lui, dès le départ, il m'a tout de suite offert ce rôle-là. Donc voilà, je suis tombée. Le baroque que j'aimais, mais que je pensais pas y avoir ma place, m'a donné mes premières chances de faire de la scène. De fil en aiguille, j'ai rencontré Alan Curtis, qui m'a fait aussi qui m'a fait enregistrer mon premier disque chez Deutsche Grammophon. C'était dans le Rodelinda. Je faisais le rôle de Unulfo. Et à un moment donné, je reçois un téléphone. Dans ce même été, je n'ai juste.
On est en quelle année, Marie-Nicole?
2003. On est rendu en 2003. Je viens de rencontrer Alan Curtis. Et là, qui me dit, mais attends, mais moi, je trouve que c'est fantastique ce que tu fais dans le baroque. Moi, je me sentais super mal. Il fait, non. Lui, dès le départ, il m'a adopté comment j'étais. Il a adoré ce que je faisais. Il aimait, il dit, c'est du théâtre, c'est de l'émotion, c'est ça qu'on a besoin dans le baroque. Et à un moment donné, je reçois une offre de faire Bradamante dans une reprise de Orlando Furioso à Paris. Ah bon? Vivaldi fait un opéra, d'accord, je reçois la partition. C'était début septembre. Le concert allait être au mois d'octobre. Je reçois un appel de mon agent de l'époque. Elle me dit, Marie-Nicole, oui, celle qui devait faire Orlando a annulé. Veux-tu faire Orlando Furioso? Là, j'ai dit, attends, j'ai regardé la partition. À cette époque-là, je ne connaissais pas du tout l'enregistrement de Marilyn Horne. J'en avais jamais entendu parler, ni d'Ève ni d'Adam. J'avais jamais entendu parler carrément de cet opéra-là, Orlando Furioso. Je ne connaissais rien. Donc là, j'ouvre la partition et je vois que c'est quand même bien écrit. C'est vraiment une écriture de contralto. Et là, je dis, OK, je le fais. Ça reste comme ça. Là, il dit, le chef veut que vous l'appeliez. Je compose le téléphone. Jean-Christophe Spinozzi, je fais le numéro. Et j'entends ma voix chanter. Il dit, bonjour. Je m'entends. J'ai dit, c'est Marie-Nicole Lemieux. Non, c'est pas vrai! Vous savez pas quoi? Là, je fais quoi? Je suis en train de vous écouter! Il était en train de m'écouter. Il était en train de faire écouter à toute l'orchestre, écouter celle qu'on a trouvée pour faire le... Il avait mis les nuits d'été. Il chantait le spectre de la rose. Et là, j'appelle. Alors là, il a dit, c'est un signe. Mais comme Jean-Christophe Spinozzi, c'est un être débordant d'énergie et qui parle. Et en fait, il m'en dit trop. Là, il est en train de tout m'expliquer, le pot rose, l'histoire du projet. Est-ce que ça n'a pas été fait depuis Marilyn Horne? Il me dit ça, que tous les journalistes vont être là. Il m'explique ça, qu'il y a un enregistrement à la clé. Mais là, il me met tout ça, mais moi, j'avais pas réalisé ça. Et là, je raccroche, étourdie, complètement, j'ai le tournis. Et là, je rappelle mon agent, puis je dis, non, j'annule, je le fais pas. Et là, il me dit, t'es sûr? Je dis, oui, c'est trop risqué, je le fais pas. Et là, Jean-Christophe me rappelle. Puis là, il me dit, mais t'as pas compris que... J'ai dit, là, j'explique. J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai pas envie. J'ai peur. J'ai peur d'être là parce que je suis votre deuxième choix. OK? Je veux pas être là par défaut. Je veux pas sentir, je lui ai dit ça au téléphone, je veux pas sentir que je suis là par défaut. Puis après ça, si je fais pas bien le travail, vous allez dire, oui, mais bon, c'était une fille de remplacement. J'ai dit, moi, là, c'est ça, là. Là, je chante pas vite comme Marilyn Horne. J'y avais dit ça, j'étais traumatisée parce que j'avais toujours peur des vocalises rapides. J'ai dit, je suis pas rapide comme elle, OK? J'ai dit, j'ai des qualités, mais j'ai pas ça. Jean-Christophe, on va vaincre ensemble ou on va couler ensemble. Et lui, ça l'a galvanisé. Il a dit, c'est génial.
Et vous avez vaincu.
Ouais. Ça a été pour la France, ça a été mon reine Élisabeth, disons. Donc, on avait fait la première à l'abbaye d'Ambronay. Moi puis Jean-Christophe, on a des natures assez folles. Et donc, lui, il exultait carrément ce côté-là. Donc, j'y allais à fond. Tellement que ça, je sais pas, il y a quelqu'un que j'ai rencontré justement cette année qui me l'a rappelé. J'étais tellement dans ma scène de folie que j'ai donné un coup sur mon pupitre. Mon pupitre, ma partition s'est élancée dans la foule. J'ai repris mon pupitre, j'ai remis la partition, en tout cas, tout ça dans une aire de fou, et je me suis rendu compte que j'avais la main mais ensanglantée, le sang coulait sur ma partition, je m'en étais même pas rendu compte. J'étais mais en transe, j'étais fou.
Et oui, donc, fou parce que vous jouiez un homme,
Marie-Nicole. L'Orlando Furioso, donc c'est un rôle exigeant. Donc tout ce qui est dramatique, c'est des récitatifs, et c'est des grandes scènes de folie, des grandes tirades, mais il n'y a pas d'air. C'est que du récit, donc il faut être incarné, il faut être fou. Et j'étais, mais complètement partie. Et donc, les gens d'Ambronay s'en rappellent encore. Et donc, j'arrive à Paris, on était à fond. Mais en même temps, oh mon Dieu, j'ai tellement eu peur, Judith. J'ai tellement eu peur, là. C'était terrible. J'étais terrorisée. Je me maquillais. Je me disais dans le miroir, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me donnais des claques. Je me disais, mais t'es folle, pourquoi t'as dit oui? Mais tu vas aller te faire ridiculiser, ils vont te détester, ils vont te décapiter. Ah, c'était terrible. Et quand je me suis assise dans la scène, sur la scène, devant moi, il y avait un chef qui m'avait refusé pour des rôles parce qu'il disait que je vocalisais pas assez bien. Il était assis devant moi, avec son air. Et là, mon premier air, c'était un air à vocalise. Non, mais c'était plein à craquer. Et là, je me suis tournée, tu sais, vers... Là, je faisais mes récitatifs, mais j'avais tellement peur, là. Je me suis tellement donnée, là, si tu savais, là. Je chantais, là, mes manches et toute la chenoute. Tu sais, dans ça, quand j'avais peur, je le voyais, puis je me disais, mais va, je le garde. Tu sais, c'était vraiment ça, c'était mes triptyques. Moi, quand j'ai peur, là, je chante ma peur. Je l'utilise pour dire, regarde, vous serez... Tant pis pour vous. Puis là, en plus, mais je savais que j'avais Jean-Christophe avec moi. Tu sais, je me suis tournée... Puis il était avec moi, tu sais. Puis là, je commence mon air nel profondo. Mais j'y vais, là. Mais je chante, là. De toutes mes tripes, là. Et là, je finis ma dernière note. Et là, j'entends. Bravo! Et ça se met à crier partout. J'avais chanté un peu au Théâtre des Champs-Élysées avant. Mais ça, vraiment, ça a été une consécration parisienne. Puis ça a toujours resté. Ça fait depuis 2003. Et en plus, ça a été la consécration parisienne de Philippe Jaroussky, ne l'oublions pas, qui est maintenant une star interplanétaire. Là, je veux dire, c'est incroyable, tu vois partout, Philippe Jaroussky, partout. On est devenus amis. Donc, si vous imaginez, c'était une soirée quand même, hein. Ça a été la soirée Spinozzi le mieux, Jaroussky.
Avrà conforto, avrà pace. Philippe Jaroussky et l'ensemble Matheus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi dans l'air de Ruggiero à l'acte 1 de l'Orlando Furioso de Vivaldi. Réalisation de ces grands entretiens avec Marie-Nicole Lemieux, Perrine Minguy, prise de son Yvan Turc, mixage Éric Boisset, attaché de production Marion Guillemet. Rendez-vous demain dès 13h pour le dernier épisode de ce portrait et quand vous voulez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.